Acte 2. L'émission d'entrevue de l'association du passage à l'acte. La jungle de l'éducation primaire ou secondaire en France est régulièrement battue par les tempêtes des réformes du ministère. Enseignants, parents et enfants se heurtent à un système rigide où les alternatives peinent à voir le jour. Certaines percent pourtant dans le paysage. Elles proposent d'autres pédagogies, d'autres façons de gérer un groupe ou un conflit. Elles apparaissent dans le public et le plus souvent sous statut privé, dans des écoles dites hors contrat, c'est-à-dire sans subvention de l'État. Dans le pays voironnais, en Isère, une équipe d'une dizaine de personnes envisage d'ouvrir une école démocratique, l'atelier des possibles. Graphistes, peintres, chercheurs, architectes, enseignants, mais surtout parents pour la plupart, ils souhaitent proposer une autre approche éducative aux enfants. Basée sur le modèle de l'école Sudbury, ouverte il y a une cinquantaine d'années aux États-Unis, l'école se veut un espace où les enfants, de 3 à 19 ans, sont laissés libres de leurs apprentissages et où la gestion est l'affaire de tous, adultes et enfants. Catherine Sylvestre-Tello et Julie Fassi, toutes deux activement impliquées dans le projet, nous expliquent le fonctionnement du modèle, leur motivation et avancée pour faire naître l'école en septembre 2016.
Alors, moi je m'appelle Catherine Sylvestre-Tello et je suis maman et à l'initiative de la création du projet de l'Atelier des Possibles, donc une école démocratique. J'ai eu envie de rassembler des gens autour de ce projet-là en passant à l'action, voilà, en octobre de l'année dernière. Depuis, ça fait écho chez beaucoup de gens, donc on est une équipe de 10 personnes, voilà. Donc je fais partie de l'équipe.
Et moi, c'est Julie Fassi, et du coup, je fais aussi partie de l'équipe de création de l'école, et je suis maman de 2 enfants, et c'est peut-être même la première chose.
Justement, vous avez toutes les deux commencé en disant que vous étiez maman. Ce projet d'école démocratique, comment est-ce qu'il vous est venu ?
Eh bien, en fait, quand on vit avant d'être parent, on peut avoir des préoccupations d'ouverture sur le monde et de vouloir changer un petit peu la société, mais quand on commence à voir la vie au travers des yeux de nos enfants, on se rend compte que en fait, le changement, ça commence par les enfants. Et en fait, quand je les ai vus grandir, je me suis rendu compte qu'ils arrivaient à vivre leur vie très bien, qu'ils n'avaient pas besoin d'être guidés plus que ça. Et en fait, ils ont appris à marcher en nous regardant, ils ont appris à parler en nous regardant, et ils sont curieux naturellement. Et si on les laisse vivre leurs enthousiasmes, ils apprennent énormément de choses. Parallèlement à ça, il y a l'école qui a commencé pour mon aîné. Je me suis rendu compte que le rythme imposé par le système conventionnel, le formatage entre guillemets, ce qu'on essayait de faire aux enfants, un petit peu de façon systématique, c'était peut-être pas ce qui se convenait à ce que j'avais envie à mes enfants. Voilà, j'ai envie qu'ils soient eux-mêmes et qu'ils aillent au bout de leurs actions. Donc du coup, je me suis dit qu'il faudrait proposer autre chose.
C'est un peu le même constat, bien que moi, je ne me suis pas investie dans le projet pour mes enfants. En fait, c'est pas pour Timothée, en me disant il aura un endroit où aller. Après, si jamais il demande, ok, super. Mais c'est vraiment parce que je suis touchée par cette philosophie. Parce que je trouve ça beau de pouvoir se dire que mon enfant, il a besoin de dormir jusqu'à 10h parce qu'il est claqué en ce moment. Et ben, je ne vais pas être obligée de le lever à 7h pour qu'il aille à l'école à 8h30 pile avec la route et tout. C'est un détail parmi tant d'autres, hein, mais où il sera dans un lieu où il sera accueilli avec bienveillance et avec respect de sa personne, en fait. Et pour moi, ça vaut de l'or. Et je me dis que si je le fais pas moins pour mes enfants, si ça peut l'être pour d'autres, et que c'est beau, quoi. D'accord. Et puis, c'est une aventure humaine. Je suis contente de pouvoir participer à ça, participer à ce projet-là avec les gens que je connais. C'est chouette.
L'atelier des possibles, en résumé, qu'est-ce que c'est ?
Voilà, c'est une école démocratique. Donc ça s'inspire de la philosophie des écoles Sudbury, donc qui ont été créées il y a 50 ans aux États-Unis. Et l'idée, donc, c'est deux choses. C'est basé sur la confiance dans l'enfant. Donc l'idée que l'enfant apprend librement. Donc les apprentissages sont faits de façon autonome. Et l'implication dans la vie de l'école, elle est horizontale, donc chaque membre de l'école a une voix de vote pour la gestion de l'école. Donc il y a des instances comme un conseil d'école et un cercle de restauratif, donc qui gère les relations entre les gens. Les membres de l'école, donc les encadrants et les élèves, décide des règles de fonctionnement, décide de la façon de gérer jusqu'au budget ou les relations humaines. Voilà.
D'accord. Et comment est-ce que...
Ce qui est beau et ce qui est chouette, c'est que les règles ne sont pas définies au démarrage et fixes jusqu'au cours de l'année. Si on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont en souffrance parce que ces règles-là sont vraiment très difficiles à vivre, on peut les rediscuter. Elles peuvent demander à ce qu'elles soient votées différemment, changées, modifiées. Et ça, qu'elles aient 3 ans, 19 ou 45 ans, quoi. Donc, c'est chouette, c'est important.
D'accord. Et comment est-ce que vous êtes venu à ce modèle, en fait ? Comment vous l'avez connu ? Est-ce que vous l'avez un peu expérimenté vous-même ? Vous avez vu des écoles ?
Alors, on est venu... on est venu, je pense, ensemble. Notre chemin, c'est plus venu par les apprentissages autonomes. Donc, voilà, il y a des gens qui ont choisi de ne pas instruire à l'école leurs enfants et qui font de l'instruction en famille. On appelle ça en France. Et dans l'instruction en famille, il y a plusieurs façons de faire l'instruction en famille. Il y en a qui reproduisent le système conventionnel, donc ils font l'école à la maison. Et il y en a qui laissent leurs enfants libres, donc ce qu'on peut appeler l'unschooling ou voilà, les apprentissages autonomes.
L'unschooling.
C'est assez bien décrit dans un documentaire récent de Clara Bellard, Être et Devenir. Et voilà, donc nous, en fait, ce qu'on vit, c'est plutôt ça au quotidien, c'est les apprentissages autonomes de nos enfants. Après, moi personnellement, j'ai des contraintes familiales ou professionnelles qui me font que je ne pourrais pas vivre ça dans une communauté que je créerais toute seule. Et donc, l'alternative que j'ai envie de proposer, c'est cette vie dans une école démocratique où, à côté des apprentissages informels, vient se rajouter cette vie en communauté qui est aussi très riche. Et donc, au fil des lectures, on est arrivé à lire sur les écoles démocratiques, les dernières écoles qui ont ouvert à Paris et à Dijon, en Dijon en 2014, à Paris en 2015.
Oui.
Voilà, on a été les visiter. On a participé à un réseau de soutien à l'éducation démocratique, l'EDEC, donc c'est un réseau européen.
Ouais, EUDEC, c'est ça ?
C'est ça, qui soutient l'éducation démocratique. Et on a été à un week-end... organisé par l'EDEC en janvier. On est dans un réseau en fait qui parle des écoles démocratiques.
Vous avez vu un petit peu comment ça s'expérimentait au quotidien dans des...
Oui, on a été, y a une partie de l'équipe qui a été 2 jours à l'école dynamique.
Donc l'école dynamique,
c'est celle qui est à Paris.
Oui.
Voilà. Et voilà. C'est tout ce qu'on a fait pour l'instant. Voilà, on espère aller davantage en immersion à Dijon et à Paris.
Ouais.
Il y a aussi une école, d'autres écoles en Europe. Il y en a une en Belgique qui existe depuis 8 ans maintenant, voilà, qui peuvent aussi nous accueillir. Voilà. Il y a une personne dans l'équipe aussi qui a aussi participé au début de création d'une autre école démocratique en Allemagne. En Allemagne, c'est un peu plus développé. Il y a une vingtaine d'écoles.
Oui, parce qu'en Allemagne, l'école est obligatoire. Pas que l'instruction, du coup, les écoles alternatives... j'ai la sensation, en tout cas, en lisant et en voyant différents reportages, que c'est un peu plus ancré, la nécessité. Que quand le système conventionnel ne va pas, il y a plus d'énergie.
Oui, parce que les parents n'ont pas le choix.
Voilà. Et donc, enfin, du coup, il y a ce rapport aussi au fait que l'argent est déplacé. Quand les impôts que les parents donnent à l'État pour l'école conventionnelle, s'ils montent, que leurs enfants vont dans une école privée... il y a un rebasculement de ces impôts-là pour les écoles privées.
Oui.
Ce qui change pas mal de choses, mine de rien.
En effet, on reviendra sur le volet économique de ce projet.
Bah oui,
c'est vrai que c'est un point non négligeable.
Et du coup, moi, par rapport à comment j'y suis venue, de la même manière, par mon fils aîné, en fait, qui a 4 ans. Et oui, il a appris à marcher, il apprend à lire, il apprend à... Et voilà.
Ouais.
Et
le
seul.
Modèle Sudbury me paraissait moins médiatisé que tout ce qui... Enfin, ou en tout cas moins connu que tout ce qui est pédagogie alternative, type Steiner, Montessori ou Freinet. Pourquoi avoir choisi plutôt ce modèle-là, plutôt qu'une pédagogie alternative qui déjà propose des choses où l'enfant a pas mal de liberté,
ouais.
De liberté, oui, quand même, et vraiment pas face à un professeur comme dans le système classique.
Mais du coup, je crois que ça part aussi des apprentissages autonomes, parce que ce dont on parlait tout à l'heure en parlant de unschooling, c'est-à-dire de laisser les enfants vivre ce qu'ils ont à vivre sans interférer, juste être là comme ressource, ou en tout cas accompagnant, mais sans être dans l'intention d'inculquer ou d'apprendre, d'enseigner quelque chose. Eh bien ça, si on veut le transformer en faire un lieu qui serait une école, bah, l'école démocratique, c'est ce qui est le plus proche en fait de ça. Et dans l'idée de laisser le choix aux enfants, moi, André Stern a dit une phrase un jour où on était en atelier et que j'ai trouvé géniale, en tout cas ça m'a beaucoup plu. Il me disait « Laissez le choix à une personne de manger de la viande de bœuf ou de la viande d'agneau quand elle est végétarienne, est-ce que c'est vraiment lui laisser le choix ?» Et moi ça m'a marqué, je me suis dit « Ok, bon, dans ma vie personnelle et dans ma vie de maman. » Et du coup je trouve que c'est assez parlant pour moi en tout cas dans l'idée que il y a des très belles choses en Montessori, des très belles choses en Freinet, mais du coup même s'il y a une liberté de choisir certaines choses, le cadre est un peu plus restrictif. Il le sera aussi dans une école démocratique, évidemment. On est toujours, il y a toujours des contraintes physiques. On peut pas voler, on peut pas. Il y a des murs, voilà, un espace limité. Mais du coup, jusqu'où on peut aller dans cette ouverture et dans cette confiance, parce que ça va de pair. Hein.
Mais je crois que la grande différence, c'est l'intention qui est mise derrière. Donc, en fait, dans la pédagogie Montessori, par exemple, il y a des outils qui sont là dans l'intention d'un certain apprentissage. Donc ça part de l'apprentissage. Nous, en fait, notre positionnement, c'est plus on part de chaque individu. Donc chaque individu a une façon de vivre, d'apprendre qui lui est propre et va développer ses capacités de façon unique. Voilà. Et donc si on le restreint d'une certaine façon, bah, il va devoir s'adapter, rentrer dans un moule de pensée qui n'est pas forcément le sien. Donc après, il y a certaines personnes qui arrivent bien, mais même dans le système conventionnel, on voit que ça correspond pas à tout le monde. Alors donc il y a beaucoup de choses qui sont encourageantes dans ces pédagogies différentes, parce qu'elles aident toutes ces personnes qui se sentent mal dans le système conventionnel à trouver des repères différents. Maintenant, nous, notre position, elle est vraiment distincte. C'est pas.
D'accord.
On va pas chercher à leur enseigner quelque chose. On a confiance que chacun va acquérir ce dont il a besoin pour continuer.
D'accord. En fait, vous partez d'une envie de l'enfant, qu'il ait 3, 6, 10, 15, 19 ans. De cette envie, vous trouvez un apprentissage qui est lié. Comment, en fait, à partir de là, répondre aux exigences du programme officiel? Parce que donc, je suis allée voir le site internet qui est assez complet. Il y a quand même toujours ça en fond, et c'est une question que les parents, je suppose, se posent beaucoup. Le programme officiel, comment est-ce qu'il est tenu?
Donc, ce qui est demandé, ouais, pour les écoles hors contrat, en privé, ce qui est demandé, c'est qu'à 16 ans, chaque élève ait acquis le socle commun des compétences. Donc, c'est une liste de choses à acquérir. Et en fait, ce qu'on croit, c'est qu'avec chaque intérêt de chaque élève, chaque élève va devenir expert de ce qui l'enthousiasme et va créer des liens dans ses apprentissages qui vont l'aider à apprendre tout ce dont il a besoin. Donc on n'a pas peur, parce que on sait que l'environnement riche et au niveau relationnel, au niveau ressources qu'ils auront, feront en sorte que ils apprendront. Et en fait voilà, par rapport au socle commun de compétences, c'est plus les peurs ou la demande de l'éducation nationale qui nous oblige à démontrer que chaque élève aura ce socle. Et donc nous, on va en quelque sorte travailler à répondre à cette demande en faisant des parallélismes sur ce que chaque élève vit au quotidien et à quoi ça correspond dans le socle commun des compétences.
D'accord.
Donc on va mettre en parallèle via un outil informatique ce que chacun vit au quotidien. Voilà, en fait, ça sera comme une peinture représentative pour l'éducation nationale des apprentissages de chacun. Après, en vérité, ce que chaque élève vivra vraiment, ça pourra aller beaucoup plus loin que ce qui sera noté sur le papier.
Bien au-delà, oui, du programme. Donc, si on prend un exemple, l'exemple de la cabane
cabane à oiseaux. Oui, j'aime bien cette image de la cabane à oiseaux. Oui. Par exemple, imaginons un petit garçon, Julien, qui vient à l'atelier des possibles et qui en ce moment est vraiment, mais vraiment passionné par les oiseaux, quoi. Donc, il a été chercher des choses sur Internet, il a été chercher des bouquins, il a rencontré une autre personne, un voisin qui est un petit peu âgé, qui a vraiment été passionné par la migration de je sais plus quelle espèce, bref, voilà. Donc, c'est son truc en ce moment, quoi. Et il se dit, mais génial, je vais construire des cabanes à mésanges. Donc déjà, il a fait un peu de biologie, un peu d'ornithologie, et là, il va se lancer sur sa cabane à oiseaux. Ben, pour construire une cabane à oiseaux, faut découper des planches droites, il faut arriver à connaître un minimum de géométrie, savoir ce que c'est qu'un angle droit, si on veut que ça tienne, qu'on puisse coller, clouer, etc. Ben, du coup, ce petit garçon, seul, ou avec d'autres enfants, ou des adolescents, ou des facilitateurs adultes présents, eh ben, il va aborder des notions du coup de géométrie, et de calcul, et de mesure, et... Et tout ça, lui, va le faire naturellement. Et bien, le boulot du facilitateur, ça sera peut-être juste de se dire « Ah tiens, il a fait ça, du coup, ça correspond à ça pour l'éducation nationale. Bon, » on n'est pas obligé de lui dire à l'enfant, il s'en fiche, lui. Hein. Et hop, on le met de côté. Et le jour où l'inspecteur vient, il dit « Oui, oui, ah ouais, Julien, il l'a fait, Pythagore, ouais, pas de problème, regardez.
» D'accord, donc oui, c'est une expérimentation, enfin, c'est l'apprentissage aussi par le faire.
C'est ça, j'ai l'impression que c'est plus organique, en fait. C'est pas cadré, c'est pas organisé. Comment est-ce qu'une forêt se construit? Est-ce qu'on plante pas les arbres alignés et ça pousse, ça tombe et ça pousse et ça marche en fait? Et les plantes, il y a des buissons, il y a des petites plantes, des grosses plantes et ça fonctionne. Et en fait, du coup, ça fait un écosystème qui fonctionne super bien. Dès lors où vous commencez à contrôler, à gérer, il y a des déséquilibres. Et il manque un champignon qui fait que telle plante pousse mal. Voilà, et du coup, je pense que dans l'apprentissage autonome, c'est ça qui se passe. En fait, on sait pas exactement ce qui se passe dans le cerveau de ces enfants ou de ces adolescents. Mais ça se connecte, ça, ils font des liens qu'on ferait pas si nous on avait décidé en amont en fait. Il doit faire tel lien entre telle chose et telle chose.
D'ailleurs, il y a un livre qui parle de ça, c'est le livre d'Alan Thomas sur l'éducation à la vie, je crois que c'est ça le titre.
Les apprentissages
informels. Il explique en fait, il fait une étude scientifique, donc c'est un chercheur anglais qui étudie. Je ne sais plus combien de familles qui justement mènent des apprentissages autonomes chez eux et à la recherche en fait du mécanisme d'apprentissage, comment les enfants ils font pour apprendre quand ils sont laissés comme ça libres, comment ça marche l'apprentissage, voilà. Et il étudie ça dans son livre, c'est assez d'accord. Clair.
Et alors justement, encore un mot sur le modèle, ce qui est particulier dans l'école démocratique, c'est le fait de gérer donc aussi le fonctionnement entre élèves, avec les adultes, sur un mode complètement horizontal. Ça, du coup, comment ça se gère concrètement? C'est quoi le... Est-ce que vous pouvez juste expliquer ce qu'est le conseil des élèves et le conseil juridique?
Oui, donc il y a un conseil d'école qui se réunit une fois par semaine. Donc l'idée, c'est que chaque membre de l'école peut aller à ce conseil d'école. C'est pas obligatoire. En tout cas, dans le fonctionnement qu'on va choisir. Tous les membres de l'école peuvent y aller. Donc ça peut être tous les élèves et tous les facilitateurs. Mais c'est pas une obligation, donc c'est tous ceux qui veulent. Donc par exemple, si à l'ordre du jour, il y a des sujets qui m'intéressent, je peux y aller, mais s'il n'y a rien qui m'intéresse, je peux continuer à jouer au foot.
Mais alors, qui fait l'ordre du jour?
L'ordre du jour, il est suggéré, donc il y a un secrétaire de séance qui récupère toutes les suggestions d'ordre du jour dans une boîte. Il est affiché à 10h le matin. Et lors de ce conseil d'école, une fois par semaine, sont discutées toute la gestion de l'école. Donc ça peut être les revues de règles, s'il y a des règles qui sont à réviser. Toutes les décisions, elles sont faites en deux séances. Une séance, on les discute, et la séance d'après, on va les voter. Et ça peut être donc des règles, ça peut être la décision de mettre en place des clubs, la décision de donner de l'argent pour certains clubs. Donc il y a le conseil d'école et le cercle de justice restaurative. Donc nous, on appelle ça le cercle de restauratif. Où là sont régulées les relations entre les gens. Typiquement, s'il y a une transgression de règles, ou s'il y a des conflits, et ben c'est là que ça se discute. Où là, on va vraiment écouter chaque personne et trouver une solution pour que la vie se rétablisse de façon harmonieuse. Et toutes les décisions qui sont prises dans cette entité, donc qui a un pouvoir délégué du conseil d'école, elles sont ensuite validées pendant le conseil d'école une fois par semaine. Le cercle restauratif, il se réunit une fois par jour. Moi, à l'école dynamique et dans les écoles Sudbury, il y a 3 personnes qui gèrent ce conseil. Donc ça peut être des adultes, mais ça peut être aussi juste des enfants, des adolescents. toutes les personnes qui veulent y participer peuvent y participer. Et voilà.
Je vais juste vous inviter pour qu'on dise un peu ce que c'est un facilitateur.
Ah oui,
on
oui.
emploie le mot depuis tout à l'heure, mais
carrément.
C'est pas forcément.
Alors, un facilitateur. Un facilitateur. Donc, les facilitateurs sont les adultes présents et qui sont garants de la sécurité physique, émotionnelle et psychique des enfants et des adolescents présents. Le facilitateur n'est pas là dans l'intention d'enseigner, ni pour proposer des activités à faire aux enfants. Il peut, si lui, il a très envie, par exemple, de faire de la couture aujourd'hui, de le proposer, c'est pas un souci. Mais c'est plus dans l'intention, en fait. Voilà.
C'est une intention de partage, voilà.
C'est ça.
De la même façon que chaque membre peut proposer une activité dans l'envie de partager ou de faire pour soi, le facilitateur peut faire la même chose. Si moi, ça me tient à cœur de mettre en place un groupe de musique, je pourrais le proposer, ça pourrait être voté au conseil d'école, voilà, qu'on crée une salle de musique, comme ça pourra ne pas l'être voté, voilà.
Après, du coup, le facilitateur est aussi présent, du coup, pour les enfants et adolescents qui ont des questions, des demandes, qui sont bloqués sur quelque chose et qui ont besoin d'un coup de main. Dans la mesure où le facilitateur est capable.
Oui, voilà. S'il y a un besoin de chercher avec eux des ressources à l'extérieur, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. C'est d'être là s'il y a des besoins.
D'accord. Et combien de facilitateurs est-ce qu'il faut envisager pour un tel projet par rapport au nombre?
Alors, aux États-Unis, ils ont une école avec 200 membres, donc 200 élèves, et il y a 20 facilitateurs. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'enfants petits, parce que les enfants petits ont besoin d'attention particulière. Et du coup, il faut les accompagner davantage que. Enfin, d'une autre manière en tout cas, que les enfants plus grands. On va se positionner sur le nombre de facilitateurs quand on sera vraiment le nombre d'élèves. Mais l'envie qui a émergé des discussions de groupe, c'est qu'il y ait au moins 3 personnes quotidiennement dans l'école. Donc au moins 3 facilitateurs.
D'accord, pour vous disiez.
Entre 20 et 60, après ça dépendra. Donc s'il y a 60 élèves. On sera peut-être 6, voilà. Ça dépendra du lieu, ça dépendra de la façon de faire. Fin...
Et une question par rapport encore à l'équipe et aux facilitateurs. Est-ce qu'ils ont une formation particulière? Comment vous gérez ce travail, cette activité?
En fait, ils ont une formation pour apprendre à lâcher prise. Voilà. À essayer de ne pas proposer avec des intentions. Moi, je rigole un petit peu en disant qu'ils ont une formation, mais c'est vraiment... Il faut que la personne qui soit facilitateur soit en phase avec la philosophie de ne pas trop interférer dans les apprentissages des enfants. Donc, de ne pas essayer de les guider quand ils n'en ont pas besoin ou demander.
C'est un peu une formation pour se déformer.
Oui, c'est ça, en quelque sorte.
Ça, c'est enlever des couches, en fait. C'est revenir à des choses...
Voilà, être authentique. Après, oui, chaque personne sera là avec son bagage, sa vie. Donc, on arrive tous avec une expérience, des compétences, un savoir-faire. Et c'est ça qui va être très important pour l'équipe. Après, il y a forcément des compétences humaines. Quand on arrive à vouloir être facilitateur dans ce genre d'école, il faut, je pense qu'on est aussi en questionnement et en réflexion personnelle. Donc en remise en question un petit peu et de sa façon de communiquer pour accompagner la gestion des conflits et tout ça.
Oui, il y a certains d'entre nous qui sont sensibles à la communication non violente, qui ont déjà entrepris personnellement du coup des formations, des modules. Mais ça, en fait, c'est un truc holistique et global, quoi. On le fait pour nous, mais à la fois, c'est aussi pour être en relation avec les autres. Donc ça forcément aura un impact dans notre vie de facilitateur.
Je pense que c'est important pour nous qu'on soit justement tous les facilitateurs un petit peu sur la même longueur d'onde par rapport à cet accompagnement. Du coup, on va établir une charte un petit peu de façon d'être, voilà, pour les facilitateurs, afin que comme support un petit peu pour l'équipe, voilà, pour se rappeler vers quoi on tend. Et on a aussi le projet de proposer à l'équipe de facilitateurs des formations. Plus voilà, dans la gestion des conflits ou des relations humaines. Voilà.
J'ai vu qu'il y avait donc 42 écoles dans le monde, écoles démocratiques dans le monde, ce qui paraît peu. Quels sont les retours? Est-ce que vous savez quels sont les retours d'expérience sur ces écoles? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont fait toute leur scolarité, qui en sont sortis? Comment ça s'est passé pour eux ou...
Il y a quand même 50 ans, presque 50 ans de recul avec l'école Sudbury de Valley, oui. la première.
L'école des États-Unis, ils travaillent pas mal à recouper justement la documentation sur le devenir de leurs étudiants. Ils ont publié un livre, ça s'appelle Legacy of Trust, qui fait état de 50 ans d'histoire et que sont devenus leurs étudiants. Voilà, donc je ne l'ai pas encore lu, mais ce que j'ai retenu de discours que j'ai entendu à ce sujet, c'est que sur les étudiants qui sortent et qui traversent leur scolarité chez eux, il y en a 60% qui vont être maîtres de leur travail ensuite, donc plutôt ce qu'on verrait nous comme auto-entrepreneurs ou créateurs de leur emploi. Donc c'est une proportion plus élevée que la population moyenne aux États-Unis. Et le reste ont aussi un travail, mais plus classique, donc avec un employeur. Ce qu'ils ont vu aussi, c'était que plus les étudiants s'intéressent tardivement aux matières scolaires, typiquement, des maths ou,
littérature,
voilà, plus ils vont s'orienter vers des carrières académiques, donc poursuivre à la fac et étudier cette façon académique. Et après, il y a des reportages sur Internet où on peut entendre des étudiants qui disent ne rien avoir fait de scolaire jusqu'à la dernière année, où tout d'un coup, leur passion bouge vers l'informatique et après, ils créent une boîte et ils sont embauchés par des grandes entreprises. Voilà. Donc, en fait, ça, quelque part, ça rassure les gens qui ont peur. Est-ce que ça va pas sortir nos enfants du système ? Je sais pas quoi. Non, si on a confiance... Si on a confiance dans l'individu, on a confiance que ce qu'il développera lui ira comme un gant.
Voilà. Et plus que d'être extrait du système, en fait, même c'est d'être encore plus intégré dans la société parce que tu es constructeur de quelque chose et tu participes pleinement. Tu as tellement eu l'habitude de participer au quotidien avec tous les autres camarades, qu'ils soient enfants, adultes ou adolescents. Tu as déjà toujours pris en compte ces choses-là, tu as toujours participé. Du coup, quand tu deviens adulte et que tu quittes l'école, pourquoi est-ce que tu ferais autrement ? Pourquoi est-ce que tu ne serais pas un citoyen qui participe et qui est investi ?
Oui, après, c'est l'idée de se confronter à des personnes qui n'ont pas vécu la même chose, qui ont vécu à d'autres systèmes, beaucoup plus hiérarchisés, beaucoup plus verticaux.
Oui, c'est sûr.
Qui ne vont pas réagir comme les personnes que les enfants ont rencontrées au quotidien pendant leur scolarité.
C'est sûr que ça fait des personnes qui ont confiance en eux, qui n'ont pas peur de parler aux gens, qui... On peut avoir des responsabilités, ça fait des personnes authentiques. Ouais, ça peut...
Après, je pense que...
Déconcerter ça.
Je pense que comme l'école n'est pas fermée et que... en tout cas, nous, notre souhait, c'est qu'elle soit perméable avec ce qui se passe à l'extérieur, des entreprises, des associations. Et il y a des endroits où il y a un fonctionnement plus hiérarchique. Donc, ils seront quand même confrontés à ce fonctionnement-là. Ah oui, il y a certains endroits où j'ai pas cette liberté-là, j'ai pas ce droit-là, et il y en a un qui décide pour les autres. OK, ils seront forcément en contact avec ça. On n'est pas... On s'extrait pas de la société.
L'école ouvrira en septembre, quoi qu'il arrive ?
Oui.
J'aimerais bien, oui. On fait tout pour, en tout cas.
On espère trouver les locaux, en fait. En fait, il y a un délai au niveau de... Par rapport au lieu, il faut qu'il soit validé par la préfecture pour les normes de sécurité.
Et par l'inspecteur.
Et par l'inspecteur académique, voilà.
Et donc, il y a des moments un peu de flottement, là, fin en été, donc... Il ne faut pas rater le coche, c'est important que ça puisse se faire un peu avant l'été, surtout avant le mois d'août, si on veut avoir un inspecteur présent.
Alors, quel type de local vous cherchez ?
Alors, on cherche un local qui aurait plusieurs pièces, parce que typiquement, on voudrait proposer des ambiances, une ambiance par pièce. Voilà, on imagine une ambiance calme, un coin lecture, une ambiance plus cuisine, une ambiance art plastique, un espace extérieur... Il y aurait un espace extérieur expérimental pour travailler en lien avec la nature. Un coin informatique. Donc plusieurs pièces. Si c'est de plein pied, c'est plus facile parce qu'au niveau des normes. Si c'est pas de plein pied, on travaillera à faire respecter les normes. Voilà. Les normes ERP d'accueil du public.
Et du coup, oui, ce qui est important aussi pour nous, c'est que ça puisse être axé sur la nature, quoi. C'est important que ce soit pas juste un petit jardinier ou une cour coincée entre 50 immeubles et on a envie que les enfants puissent grimper aux arbres.
Voilà, donc ça peut être quelque chose, un local qu'on loue, peut être des espaces qu'on a, où il y a des travaux de rénovation à faire, si jamais on n'a pas de charge locative, on peut imaginer mettre l'argent à refaire des, je sais pas, une grange, je sais pas. Voilà, on est vraiment ouvert sur les locaux. On n'a pas besoin de salle de classe, on a juste besoin d'espace de vie, voilà, qui est à l'air mettre aux normes.
Dans le pays voronais, donc.
Voilà, donc idéalement, c'est les communes où on cherche aujourd'hui, c'est Vorep, Labuisse, Coublevis, Voiron, Saint-Jean-de-Moiron, Moiron.
Et pour accueillir combien d'enfants?
On s'est dit entre 20 et 60 personnes. 20 et 60 personnes.
Ouais.
D'accord.
Donc voilà, idéalement, si on pouvait commencer avec au moins 150 mètres carrés, ça serait bien. On pourrait aller jusqu'à 400 mètres carrés. Voilà, l'idée de notre projet, c'est vraiment de rendre l'école accessible au plus grand nombre. Et notamment d'avoir les frais de scolarité les plus bas possibles. Donc aujourd'hui, on a réfléchi au budget prévisionnel et on a calculé qu'on pourrait embaucher une personne fixe au bout de 25 élèves à peu près et que le reste de l'équipe, donc du coup, pour que ça soit pas cher, s'impliquerait bénévolement. Donc il y aurait des facilitateurs qui auraient un planning fixe mais qui seraient là de façon bénévole et une personne rémunérée à terme. Donc ça permettrait d'avoir un coût de scolarité moindre. Après, il y a aussi l'idée, parce qu'on discutait avec une élue qui nous disait « Oui, ce qui me gêne dans le projet, c'est que ça ne soit pas accessible à tous les revenus, je ne sais pas quoi. » Donc d'une part, l'école des dynamiques a répondu un petit peu sur le sujet, parce que c'est encore plus cher leur frais de scolarité. Pour autant, ils ont des familles à des revenus bas. Et donc en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que non, mettre la priorité sur l'éducation des enfants, c'est pas juste donner aux riches, c'est un choix de vie. Et aussi des personnes avec moins de sous, s'ils s'en sont là dans leur chemin de vie, ils peuvent mettre en avant cet axe prioritaire. Voilà. Après, donc avec cet élu, on lui a répondu qu'effectivement, si on était vraiment ouvert à des bourses, voilà, s'ils ont envie, les élus, de contribuer pour certains élèves et de financer la scolarité de personnes qui n'ont pas les moyens, voilà, ils pourraient donner des bourses. Et d'ailleurs, il y a cette idée, peut-être, de mettre en place à terme un financement participatif mensuel. Donc, par exemple, si on trouve 100 familles qui donnent 5 euros, on pourrait ouvrir l'école à, je sais plus, un certain nombre d'élèves.
Cet argent-là serait pour les familles.
Voilà, ça pourrait faire des bourses pour élèves très démunis.
L'aide financière, c'est une chose, et puis il faut aussi faire connaître.
Mmh. Oui, bah du coup, on se dit que les réunions publiques, tous les 15 jours, ça peut faire connaître. Après, on a des affiches qu'on voudrait déposer, voilà, c'est le bouche à oreille. On n'est pas là pour convaincre les gens, en fait, d'adhérer à notre philosophie, c'est que chacun est là où il en est par rapport à sa démarche personnelle et à sa réflexion sur la confiance qu'il a envie de donner à l'enfant. Mais effectivement, il faut que les personnes qui puissent être intéressées aient le message que l'école va ouvrir.
Vous êtes montée en association,
ouais.
Association L'Atelier des Possibles.
C'est ça, oui.
Dans le cadre d'une école hors contrat, en général, l'État n'apporte rien. Mais en même temps, vous parlez aussi d'essayer au maximum de rendre l'école accessible à tous. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Il y a quand même des coûts de fonctionnement. Alors,
oui, il y a des choses incompressibles.
Est-ce que le financement participatif comblerait tout, ou bien est-ce que vous cherchez ailleurs aussi?
Alors ouais, pour commencer au début, c'est vrai que la scolarité en France, pour chaque personne, chaque élève, ça coûte 8500 euros. Donc voilà, si on avait les 8500 euros que l'État utilise, on pourrait faire une super école très très grande et
oui, plein d'élèves. Oui, c'est un petit peu comme ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'Allemagne.
Oui, voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, on n'a pas ça.
Reverse les impôts du contribuable sur l'école où est scolarisé leur enfant, qu'elle soit privée ou publique. Du coup, l'argent va là où l'enfant est scolarisé, pour faire simple, en fait.
Du coup, pas en France. Du coup, on doit se débrouiller autrement et c'est pour ça que l'école, elle n'est pas gratuite. Donc, on a estimé que si on avait un salarié, si on trouvait assez de subventions par an, on pourrait ouvrir l'école pour 180 euros par mois par élève. Donc c'est pas rien, mais c'est pas non plus extravagant. Donc avec ça, on fonctionne, voilà, sans s'acharner à faire des kermesses tous les 3 mois. Après, si le fonctionnement de l'école est tel qu'on a des projets qui nous aident à réduire les frais de scolarité, eh ben, ça sera d'autant mieux. Donc on a commencé à répondre à des campagnes de financement. pour trouver des ressources et mettre en place des projets pour les élèves.
Oui, des bourses privées en fait.
Des fondations certaines... qui proposent des...
Aujourd'hui, une école, oui, qu'est-ce qu'elle peut trouver comme financement
Eh bien, on essaye à droite à gauche. Donc, avec le printemps de l'éducation, il y a une fondation qui est en train de se mettre en place, mais elle est, du coup, elle est trop récente pour qu'elle puisse subventionner aujourd'hui. Après, il y a voilà, Nature et Découverte qui a des lancements, des appels à projets. Donc, on répond. Il y a d'autres fondations qui...
D'accord. Un peu comme une association classique.
C'est ça, oui.
Du coup, avec le pôle éducation, éducatif.
Et alors justement, par rapport, j'imagine que vous avez eu des contacts avec les institutions du Pays Voironnais. Et puis après, vous faites aussi des réunions publiques avec les personnes intéressées. Quel répondant est-ce que vous avez? Est-ce que dans le Pays Voironnais, quel est l'accueil qui vous est fait, en fait, aussi bien au niveau des institutions qu'au niveau des gens qui viennent? Comment ça se passe?
Ben, du coup, j'ai l'impression, parce que j'ai pas été à toutes les réunions avec les élus, mais que quand même c'était assez positif. Et on a même été surpris, je crois. Il y a même eu des élus qui étaient hyper enthousiastes.
Oui, on a rencontré, donc ça dépend des mairies, mais c'est intéressant. Plus la mairie elle est petite, plus les gens s'intéressent à la philosophie du projet. Et en fait, ça leur parle parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a besoin d'alternatives au système conventionnel. Et donc, toutes les alternatives sont intéressantes pour les élus. Il y a une fille qui nous a fait rire parce qu'elle nous a dit « Ah oui, moi quand j'étais instite, Summer Hill, c'est une école démocratique en Angleterre, c'était mon école idéale, mais j'ai jamais pu la mettre en place. » Donc oui, donc là, ça nous donne de la motivation pour continuer. Voilà. Donc on a toujours été bien accueillis.
Et dans les réunions publiques aussi, en fait, c'était chouette parce que la réunion qu'il y a eu à Voiron, on a eu deux jeunes instites tout juste sortis des bancs de l'école, là, et qui... se sentaient pas du tout à l'aise dans le système scolaire classique et du coup sont venus juste se renseigner et c'était chouette de voir des gens qui sont déjà professionnellement dans l'éducation, d'autres qui sont des parents, d'autres qui sont des fois des ados qui emmènent leurs parents.
Oui, vous envisagez tout de suite de prendre tous les âges?
Ah oui, en fait, c'est hyper important, c'est même la condition sine qua non.
Ouais, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait de tous les âges et en particulier des grands pour que... Voilà, pour ça. En fait, ça va s'enrouler. Enfin, tous les âges vont interagir.
D'accord. Et comment ça interagit justement ce petit écosystème
C'est la vie, hein.
On le mène pas. C'est comme dans une réunion familiale. Voilà. Les grands cousins qui jouent avec les petits, des fois qui se chamaillent. Il y en a un autre qui arrive pour essayer de régler. Bah, c'est pareil.
Ouais, c'est ça.
Avec le papy qui raconte une histoire et puis du coup les parents s'en occupent pas. Bah, c'est pareil. C'est la vie. Ça se débrouille tout seul. Et puis quand ça dérape, ben tout le monde est là pour accompagner et que ça se passe bien, quoi.
En fait, c'est que la communauté va s'approprier l'école. En fait, l'école, ça va être... Chaque élève va être responsable de son école. Donc, du coup, chacun va s'investir, chacun va prendre en charge l'autre et l'autre va prendre en charge chacun.
Enfin. Oui, je pense qu'il va y avoir un temps d'adaptation, un temps de découverte, parce que c'est pas comme dans une famille où on est avec et on grandit avec certaines personnes. Là, du coup, on va les rencontrer à un âge donné. Mais apprendre à se connaître, apprendre à former un groupe et moi je vois vraiment ça comme quelque chose de familial et d'organique.
Où en êtes-vous du projet justement? Alors, on va parler un peu vraiment de la mise en place.
Bah, du coup on est une dizaine. Alors je dis une dizaine et je dis pas le nombre fixe parce qu'en fait on est encore en train de discuter de qui sera facilitateur, comment chacun peut s'investir. D'accueillir aussi des nouvelles personnes, oui, parce qu'on est vraiment ouvert à ce que chaque personne qui se sent à cœur de participer puisse venir, quoi.
C'est ça, donc toutes les personnes qui veulent s'impliquer dans le projet peuvent toujours le faire. On est en lancement de projet, donc ça fait 4 mois qu'on a eu l'idée de faire cette école, et depuis 4 mois on travaille tout le temps dessus. En fait, c'est un projet qui nous habite de l'intérieur, donc on y pense un peu tout le temps. Et on essaye de travailler sur toutes les... sujet qu'il faut mettre en place pour réaliser une école, en fait. Donc, on a commencé par site internet, création de l'association, rendez-vous avec les élus pour faire connaître notre projet, pour voir s'il n'y a pas des locaux. Donc, voilà, ça, c'est le gros pôle de travail en ce moment, trouver des locaux pour l'école. Voilà, on voudrait ouvrir en septembre, donc on cherche partout. On plante des petites graines un peu là où les portes s'ouvrent et on espère... trouver les locaux de nos rêves, et si on trouve pas les locaux de nos rêves, on trouvera des locaux qui seront des locaux temporaires pour ouvrir en septembre.
Ça, c'est le gros travail. Après, il y a tout ce qui est voilà, discussion du fonctionnement de l'école entre les personnes qui travaillent dans le projet. Mmh. Donc, il y a toutes les réunions publiques qu'on fait. On essaye de faire une réunion publique tous les 15 jours dans toutes les communes autour dans le pays voironnais. Donc, c'est là où sera implantée l'école, pour rencontrer les gens qui ont envie de s'impliquer dans le projet, qui ont des questions sur la philosophie ou qui ont envie d'y mettre leurs enfants. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une ouverture sur toutes les questions des gens et de discuter entre nous, toutes les personnes présentes, de ces questions-là. C'est pas juste d'apporter nous notre référence, mais vraiment de discuter et d'apprendre les uns des autres. Donc la prochaine, c'est dimanche à La Ruchère. Ensuite, il y aura le 7 avril à Vorep. Et vraisemblablement, il y en aura encore tous les 15 jours donc, dans la région. C'est affiché sur le site internet. Et puis, on travaille également à la réalisation une campagne de financement participatif, parce qu'en fait pour commencer une école il faut louer des locaux, pour des locaux il faut présenter 6 mois de trésorerie et donc pour ça on va avoir besoin du soutien de tout le monde, donc on va bientôt ouvrir notre campagne de financement participatif. Et voilà, et le nouveau gros volet c'est les discussions avec le rectorat par lequel on doit passer pour ouvrir l'école. Donc il y a tout un protocole administratif sur lequel on doit travailler pour répondre aux normes de sécurité, à tout ce qu'ils nous demandent, voilà, pour ouvrir.
Certains documents à donner pour être enseignant, même si chez nous il n'y aura pas d'enseignants, les facilitateurs vont être considérés comme enseignants. Des diplômes, des casiers judiciaires vierges, enfin, des choses assez classiques. Il y a ensuite des exigences en termes de locaux, en fonction de l'âge des enfants. Par exemple, les tout petits à partir de 3 ans, donc comme on va accueillir des enfants qui ont 3 ans, les normes qu'on appelle ERP, les normes de bâtiment, elles sont plus.
Établissements recevant du public.
Voilà, c'est ça, les établissements recevant du public, elles sont plus exigeantes que pour des adolescents. Mais par contre, par exemple, pour des adolescents, ce qui n'est pas dans les normes ERP, mais qui est demandé par le rectorat de Grenoble, hein, apparemment pas tous les rectorats, mais en tout cas, c'est ce qui a été demandé là pour le rectorat de Grenoble, qu'on ait des toilettes séparées, par exemple. Tu vois, filles-garçons. Enfin, je dis séparées, filles-garçons. Et bah voilà, donc ok, il y a des petites choses comme ça.
Est-ce qu'il y a une norme pour les toilettes sèches? Parce que vous voudriez installer des toilettes sèches?
Et bah ça, on n'en sait rien,
ça
je sais pas
ça,
trop.
Si on louait une maison, qu'on mettrait dans le garage, ouais, des toilettes sèches accessibles.
Mais handicapé. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on demande.
La norme, je crois, ce qu'elle m'avait dit Marie-Laure, c'est que par exemple, si on a un compost avec des résidus de toilettes sèches, il faut pas que ça s'écoule en direction,
oui, c'est ça.
De l'école ou que les enfants aient accès.
Après, est-ce que l'éducation nationale pourrait mettre un veto, même si tu restes...
Pour toi, le sèche ?
Ben, on ne sait pas, je ne sais pas. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aborder. Et il va nous prendre pour des fous, là, le... toilettes quoi ? Toilettes sèches.
On va bétonner ça.
Non, je plaisante, hein, mais... Non, c'était...
Non, mais il nous trouve ambitieux de vouloir ouvrir un établissement qui accueille des jeunes enfants et jusqu'à des adolescents.
Oui, mais ça, c'était quand il pensait qu'il y avait plusieurs classes.
D'accord.
Et une fois que...
Oui, parce que là, c'est un espace.
Et oui.
Avec tout le monde.
Mais ça fait du coup déclaration. On doit faire exactement les mêmes dossiers, enfin, à quelques micro-trucs près, pour le primaire, pour la maternelle, pour le collège, pour le lycée. Donc du coup, ça fait 4 fois le même dossier à envoyer, qui doit être 4 fois validé. Parce que s'il y en a un seul qui n'est pas validé parce qu'il y a une pièce qui n'est pas correcte, ou parce qu'il y a un mot qui est mal écrit, ou que ce n'est pas au bon endroit, le dossier peut être refusé. Le funambule, quoi. Mais bon, voilà, c'est juste...
Le jeu, ouais.
Il faut que la préfecture et les pompiers viennent valider. Et ensuite, quand tout le dossier est prêt, on envoie ça au rectorat. Il faut que l'autorisation du maire aussi, de la commune où on s'installe. Et ensuite, on renvoie ça au rectorat, qui, lui, a un dossier complet, avec des récépissés de tout le monde, parce que tout le monde doit renvoyer des récépissés. Tu sais, c'est la bureaucratie à la française. Il y a très, très... Voilà, c'est... Et ensuite, l'inspecteur valide ou non le projet d'école.
Et donc vous mettez l'avancement du projet sur le site internet ?
Alors on a une newsletter où on peut s'inscrire sur le site internet, où on diffuse, on en a fait déjà 2 régulièrement, où est-ce qu'on en est, ou qu'est-ce qu'on cherche, ou les prochaines réunions publiques.
Et le site internet c'est ?
C'est l'atelierdespossibles.com ou alors atelierdespossibles.org.
Il y a 2 sites.
C'est la même
c'est
chose.
Même site, ça redirige.
Si on fait sous Google Atelier des possibles école, je crois qu'on arrive à bonne position.
D'accord. Super. Merci.
Avec plaisir.
C'est la fin de ce numéro de Acte 2, une balado-diffusion de l'association du passage à l'acte. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avance de partager ces sons avec les gens qui vous entourent, de les faire circuler largement, car nous refusons l'industrie de la publicité. Nous préférons, et de loin, la réputation que vous nous faites. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous commander des formations, des conférences ou des animations, nous faire un don et bien sûr, guetter nos prochaines publications.